Et bonsoir à toi qui écoute Radio Canut sur le 102.2 de la bande FM. C'est l'heure du direct, un retour au direct avec la causerie, donc comme tous les dimanches soirs ou presque. Et dans les studios, nous avons Fab.
Bonsoir Jean-Yves à la technique.
Bonsoir.
Et des grands coucous à Clara qui ne peut pas être avec nous ce soir et qui aurait bien aimé, elle aurait préféré être là. Mais finalement, elle ne peut pas, alors on lui fait des bisous.
Tout à fait.
Voilà, et on va se démerder comme on peut.
On va y arriver. Justement, tu parlais, donc ne lâche pas le micro, c'est à toi. Et tu vas nous causer de natalité, du grand drame.
Ouais. Vous avez vu, vous avez entendu, il y a des sirènes qui ont sonné dans les villes. D'un seul coup, tout le monde a commencé à s'agiter. C'était terrible. Panique à bord, il n'y a plus de bébés en France. Voilà, on a entendu hurler. Alors bon, moi, franchement, vous avez dû lire ça dans la presse libérale économique, la presse réactionnaire, les presses religieuses. Elles ont eu toutes un vent de panique en commun. Donc la natalité baisse en France et ce serait dramatique. Voilà. Bon, on savait que les pays dictatoriaux qui comptent sur une population dense pour faire la guerre et se garantir un marché intérieur immense avaient des dirigeants aux positions « faut faire des gosses, mesdames, c'est votre rôle », comme on peut le voir d'ailleurs en Chine, en Inde ou en Russie, hein, etc. Mais on oublie un peu vite que la préoccupation des démocraties libérales, je mets des guillemets, capitalistes sont du même ordre et que chez nous aussi, la baisse du nombre de bébés est un drame national absolu. Voilà. J'ai pris la voix du mec qui a peur.
Oui, non, mais vraiment là, j'ai peur.
Bah oui, parce que c'est un drame national absolu. Parce que oui, en France, 677 800 bébés sont nés dans l'Hexagone en 2023, soit une baisse de, accrochez-vous, 6,6%. Alors, ça doit être encore un coup du diable. 666, tout ça, par rapport à 2022. Voilà, 6,6%. Bon. Et c'est grave, paraît-il. Enfin, surtout sur les plateaux de CNews et d'Hanouna, hein, qui ont quand même fait. Alors, j'avoue, je me suis tapé des replays, ça fait mal. Hein. Et après, il faut regarder des vidéos de chatons.
Oui.
J'ai découvert ça, ça marche bien. Donc, ils ont quand même réussi à faire respectivement une heure et quart et quasiment deux heures sur la baisse de la natalité en France. Et puis, ça avait l'air d'être grave. Pas vraiment, hein. Bon. Ce qui avait surtout l'air d'être grave, c'était que c'était grave. Mais on ne savait pas pourquoi, en fait. Bref. En fait, il n'y a rien de très neuf. Hein. Depuis 2010, en réalité, la natalité, elle baisse en France. Et c'est pour moi, hein, qui suis anarchiste, bah, plutôt une bonne nouvelle, parce qu'elle ne baisse pas par des politiques de contraintes ou une guerre. Mais, en fait, bien parce que la pression sociale à avoir des enfants a baissé et que globalement, on fait moins de bébés qu'avant.
Oui.
Voilà. Et parce que aussi, ça veut dire que les femmes peuvent se réapproprier leur corps. Ce qui est quand même plutôt globalement une bonne nouvelle, non?
J'ai trouvé où était le drame pour CNews.
Bah, t'as trouvé.
C'est là.
Donc là. Donc voilà. Et plusieurs études mettent en avant que les mouvements comme MeToo, ou les mouvements pour la liberté de disposer de son corps, l'accès plus facilité à la contraception et aux moyens d'avortement sans risque aident les femmes à être maîtresses d'elles-mêmes, mais ont aussi aidé à ce que le fait d'avoir ou non un enfant, combien et autres questions, soit aujourd'hui un vrai sujet dans les couples. Parce que figurez-vous que j'ai lu une étude très intéressante qui disait qu'en fait on ne parlait pas du nombre d'enfants dans les couples avant les années 2000. Moi, j'aurais cru que c'était bien avant, mais en fait, avant, on n'en parlait pas. Ça venait un peu comme ça venait, puis c'était surtout sur le dos des femmes que ça reposait de prendre la pilule ou pas. En gros, c'était ça. Mais on ne discutait pas ensemble de tiens, tu
un
veux.
Contraceptif, en tout cas.
Ouais, contraceptif, oui, pardon. Mais on discutait pas, oui, ou condom stérilet ou autre. Et on discutait pas de. Et au fait, t'en veux combien, toi?
C'est le truc. Et peut-être même. Est-ce que t'en veux?
Oui, est-ce que t'en veux déjà au départ? Vous voyez? Donc c'est intéressant de voir que c'est une notion récente de discuter finalement de, bah, du fait de, d'avoir ou pas des enfants. Alors ça, bien sûr, ça existait dans des milieux marginaux, comme on dit, c'est-à-dire à la marge, mais c'est pas au sens, soit très faible en nombre. Mais globalement, que ce soit devenu une question un peu primordial quand on se met en couple, ça date des années 2000.
Ce qui est hier, en fait.
Bah, 24 ans.
C'est...
Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est aussi maintenant devenu un sujet pour les célibataires qui peuvent aussi avoir des enfants via la PMA. C'est une très bonne chose, parce que du coup, ça délie l'idée d'enfants et de famille. Oui, parce qu'on a déjà expliqué ici que enfant, famille, tout ça, c'est pas forcément dire que c'est bien. Voilà.
C'est pas la Sainte Trinité, quoi.
Non, voilà, c'est ça, on n'est pas trop fan. Alors, on peut donc que se réjouir, finalement, de voir que c'est bien un progrès sociétal qui nous mène à cette baisse. Alors, sur les plateaux de CNews et d'Hanouna.
C'est un drame d'un changement.
Ils expliquent. Oui, évidemment. Ouais, c'est un drame de changement sociétal. C'est à cause du wokisme. Pardon, je vous jure, c'était dur pour moi. Et en plus, c'est surtout la faute à toutes ces stars qui ne font des enfants tard ou qui n'en font pas. Je sais pas où était le lien. Mais il y a une chroniqueuse dont je connais pas le nom. Franchement, je l'ai pas noté parce que je m'en fous. Qui sortait un truc du genre, oui, par exemple, vous prenez Madonna, elle a fait des enfants très tard. J'avais pas compris le lien entre Madonna et la baisse de la natalité, mais il y en a un, d'après elle.
Bah oui, voilà. Surtout.
Et Taylor Swift n'a pas d'enfant aussi, ça j'ai retenu. C'est faute à Taylor Swift aussi.
Là, ouais. Je pense qu'on n'est pas loin de l'apocalypse. Quoi.
Non, mais je veux dire, enfin, le niveau des débats, on peut appeler ça des débats. J'ai le PMU d'à côté, fait mieux. Hein. Et j'aime mieux les PMU qu'à nous, on est entre nous. D'ailleurs, dans une étude, hein, quand même, pour le journal Le Monde, le choix ou pas d'avoir un enfant, en fait, ça arrive en première position de pourquoi on n'a pas d'enfant. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on s'est dit, j'en veux pas. Et c'est décorrélé complètement de toute autre cause. C'est-à-dire, c'est juste le fait ou pas d'être parent.
Oui, c'est voilà. Réfléchir déjà le fait.
Bah parce que les réactionnaires, ils vous disent, c'est parce que la jeunesse, elle a peur et qu'elle est éco-anxieuse et que tout ça, et que c'est pour ça. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en réalité, l'éco-anxiété, ça arrive attendez, je retrouve mes chiffres, en sixième position. Donc à moins de 10%, ce qui est quand même des raisons de ne pas faire un enfant.
Ouais, alors, je mets un petit c'est une étude, c'est quoi,
c'est une étude qui a été faite avec Le Monde, Fondation Jean Jaurès sur des 18 ans à 18 à 30 ans.
Donc ça ne veut pas dire forcément que la jeunesse. Parce que
oui, mais je suis pas. Ouais, enfin, je veux dire les plus jeunes, pardon. La jeunesse, oui, les plus jeunes. Oui, j'ai 47 ans, pour moi, ils ont tous 12 ans. C'est ce que je te dise.
Oui, mais ce n'est pas une réalité.
Oui.
Sache-le.
Pardon.
Mais
bon, donc, j'ai les plus de 18 ans. Donc, c'était une étude sur les 18 à 30 ans, avec la Fondation Jean Jaurès, Le Monde, donc sur plus de 20 000 personnes, quand même. Ce qui est plutôt intéressant. Oui. C'est un sondage à long terme, comme ils disent. Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a au fait le fait d'avoir encore le temps d'y penser aussi, qui arrivait en deuxième position. C'est-à-dire, on se dit entre 18 et 30 ans, ouais, bon, je peux peut-être le faire à 35, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc, je disais, l'éco-anxiété, en fait, elle est loin derrière. Et aussi, les problèmes d'argent sont aussi loin derrière. C'est marrant, parce qu'en fait, même si c'est vu comme un facteur pouvant entraîner une réflexion, mais par contre, les sondés, on va dire ça comme ça, ne mettaient pas le problème d'argent sur le fait de ne pas avoir d'enfant. Bah, il disait, on serra la ceinture s'il faut, mais l'envie d'enfant, si elle est là, elle est là. Vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça démonte un petit peu les idées reçues sur l'éco-anxiété, tout ça, qu'on se rabâche un petit peu les oreilles tout le temps. Et en fait, finalement, c'est ce que disait l'article du Monde et puis l'étude, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas tellement différente de la jeunesse d'il y a 20 ans. Et donc finalement, on est toujours sur plutôt du positif dans le sens où on a des gens qui ont la possibilité ou non d'avoir des enfants et qui donc choisissent d'en faire ou pas. Tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant de voir que on a une réaction d'un côté très réactionnaire et de l'autre côté le fait d'arrêter de flipper. Voilà. On comprend bien mieux maintenant pourquoi tous les partis de droite et d'extrême droite se focalisent sur les droits des femmes pour les casser. Hein, parce qu'on a bien compris que leur problème, c'est qu'elles pouvaient disposer de leur corps. Et ça, c'est pas bien d'après eux. Entre l'idée de politique nataliste, où les femmes seraient encouragées à faire au moins 3 enfants. Coucou le Rassemblement National, parce que c'est toi qui dis ça sur tous les plateaux. Hein, comme si on pouvait imposer aux femmes de faire 3 enfants, évidemment. Ou des attaques contre la présence de l'éducation sexuelle à l'école. Ah oui, parce que si tu sais comment ça marche, tu sais comment ne pas en avoir. Oui, c'est un peu le principe. Des associations qui viendraient pervertir les enfants.
Ah bah oui.
Oui, évidemment. Évidemment aussi, tout ce qui est pour eux les moyens de s'informer directement, Internet, tout ça. Il faut tout combattre. Ah oui, vous l'aurez compris. Oui, leur vision des femmes est celle de procréatrice et c'est tout, hein, point barre. Et ils ont en cela un point commun très fort avec toutes les religions, la catholique et la musulmane en tête, parce que ces deux-là étant les principales en France aujourd'hui. Il n'est donc pas si étonnant de voir une alliance objective entre religieux et réactionnaires en France, comme dans le monde, avec Trump par exemple.
Alors ça... Ça, c'est étonnant.
C'est étonnant.
C'est hyper étonnant, quand même.
On s'y attendait pas.
On s'y attendait pas, ouais.
La religion qui revient comme ça.
L'alliance entre réactionnaires et religieux, c'est fou. Ouais. Et en plus, donc, tu m'apprends que le RN n'est donc pas féministe.
C'est fou.
Bah
non.
C'est fou,
non,
ça.
Dit-on, non.
C'est fou.
D'ailleurs, il est aussi antisémite. mais il le dit pas.
Et aussi raciste.
Et aussi raciste.
Oui, donc en fait,
et il le dit pas.
RN, FN, même combat.
Bah, c'est tout pareil.
Ok.
voilà. 24 rue Sergent Blandan. Non, parce que si vous cherchez, il faut quand même que vous puissiez nous envoyer la lettre au bon endroit. Mais dans le fond, est-ce si grave? Hein, finalement.
C'est une vraie question.
Alors, face à la baisse de la natalité, ce sont deux visions en réalité du monde hein, qui s'affrontent, mais elles s'affrontent idéologiquement, enfin pour l'instant. Ça peut peut-être venir à autre chose plus tard, mais pour l'instant c'est idéologique. Donc le repli sur soi et la peur des autres est celle qui se dit qu'on peut partager et s'enrichir des autres, tout simplement. Car si la natalité baisse, bah, c'est l'occasion de se dire que l'on peut recevoir sans souci les humains venus d'ailleurs. Parce que finalement, bah, ouais, s'il y a moins de monde, il y a de la place, c'est le principe. Sans que ce soit un drame, d'ailleurs les réacs se rassurent un peu. D'ailleurs, il faut que les réacs se rassurent un tout petit peu. Ou pas. Parce qu'ils vont avoir peur dans ce que je dis, mais bon. Hors zone de guerre, où les enfants meurent sous les bombes ou dans les combats, ou de faim, ça c'est dégueulasse, le taux de natalité mondiale, en fait, il est en baisse. C'est fou hein, quand même. Oui, parce que plus les droits des femmes progressent, plus l'éducation progresse, ou inversement, plus l'éducation progresse et plus les droits des femmes progressent, d'ailleurs ça marche dans l'autre sens, et plus les femmes décident de faire moins d'enfants. C'est un truc de dingue. C'est wokisme. Je suis sûr que c'est ça. Pardon. Non, il faut pas regarder, hein, ça fait mal à la tête. Ouais. Donc on va sans doute vers une baisse tangentielle hein, du nombre d'humains sur Terre. Voilà. Alors on se rassure, hein, ça va se faire en douceur. Oui, parce que alors, pour ceux qui n'ont pas compris, généralement sur Terre, on est 4 générations en même temps. C'est à peu près ça, hein, la moyenne. Donc en gros, il y a les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les enfants. C'est à peu près aujourd'hui la répartition mondiale.
Mondiale.
Ouais, mondiale. Ouais. Aujourd'hui, on est arrivé à quasiment ça. Alors, c'est plus marqué dans les pays riches, évidemment. C'est moins présent dans les pays les plus pauvres, ça c'est évident, et encore moins dans les pays en guerre, évidemment. Hein. Enfin, me faites pas dire ce que
oui,
je dis.
Non,
mais en moyenne, c'est-à-dire ce qu'on constate, c'est qu'on est entre 3 et 4 générations en même temps sur le même territoire. Et c'est d'autant plus vrai dans les pays, notamment africains, qui ont vu leur niveau de vie augmenter. Aujourd'hui, on a des arrière-grands-parents. Et d'ailleurs, il y a des régions en Afrique où on n'avait pas de mots pour dire arrière-grand-père ou arrière-grand-mère.
Okay.
Vous voyez ? Donc c'est marrant, on a dû inventer des mots. Donc c'est intéressant de voir que bah oui, ça arrive et c'est bien. Ça veut dire que bah on meurt pas trop jeune. C'est plutôt cool.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, voilà ce que je me disais. C'est plutôt bien. Ça veut dire que l'espérance de vie augmente. Donc pas non plus se plaindre. Voilà. Donc en fait, on se rassure. Là, on est 10 milliards sur Terre aujourd'hui. À peu près. On va sans doute vers une baisse donc tangentielle, comme je le disais. On est 10 milliards aujourd'hui. Et avant que la baisse s'amorce, il va falloir un petit peu de temps. Parce que c'est un peu toujours décalé, comme on est 4 générations. Et au rythme où nous allons, aujourd'hui, au niveau mondial, et y compris en France, sauf catastrophe et guerre, je le redis, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle de natalité, il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Oui, mais si elle a la guerre... » Oui, alors, si elle a la guerre, c'est la merde. On est d'accord. Mais on va mettre ça de côté. Donc, si on reste juste comme ça aujourd'hui, on se dit « Il n'y a pas la guerre. » Ou même « Il n'y a plus la guerre. » Nulle part. On restera au-dessus de 7 milliards d'humains jusqu'au milieu du siècle prochain.
Okay.
Ça va.
Oui.
Hein, on est loin de disparaître, l'être humain. 7 milliards. Hein, je vous rappelle qu'il reste 450 ours blancs. Donc, globalement, on est un peu beaucoup plus d'humains.
On n'est pas encore une espèce en danger.
Ouais, ça va. Je veux dire, si on regarde bien, ça va. Bon, il n'y aura peut-être plus de hérissons avant qu'il n'y ait plus d'humains. Oui, c'est un peu le truc. Non, mais je fais des parallèles pour qu'on comprenne qu'on n'est pas à l'extinction de l'humanité, comme certains le disent. Parce que chez Hanouna, il disait ça.
Ouais,
c'est
mais
l'extinction de l'humanité.
Est-ce que c'est l'extinction de l'humanité ou est-ce que c'est le spectre d'une population diminuant dans les pays, on va dire, enfin dans leur pays, hein,
bah,
leur
dans les pays
patrie,
les plus riches.
Dans les pays les plus riches, mais surtout la France,
ouais.
Qui leur fait peur parce que ça voudrait dire, tiens, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui viendraient.
Ben, c'est un peu ça.
Et en même temps, c'est toujours un truc de vaste communication aussi, parce que finalement, si ça va mieux ailleurs, les gens n'auront peut-être pas forcément...
Ben oui.
Enfin,
il y a des démographes hein, qui disent qu'il n'y a aucune corrélation, d'ailleurs, entre le fait d'avoir une diminution diminuante et une population immigrée ou émigrée qui vient, parce que c'est des choix, d'abord. Et puis surtout, en fait, ils disent, bah, comme tu le dis, hein, il y a des gens, on espère, dans quelques années, ou dans quelques dizaines d'années, qui n'auront pas envie de bouger, parce que ça ira bien chez eux. Il n'y a pas de raison d'eux, voilà, quoi. Alors, on sait que c'est faux, parce qu'il y a tout le dérèglement climatique, tout ça, qui vont entraîner des mouvements de population, sans parler des guerres qui perdurent, mais quand même, globalement, finalement, en fait, ben non, ce qui risque de plutôt se passer, c'est ce que disaient plusieurs démographes, c'est une lagosisation. C'est-à-dire, Lagos, c'est la plus grande ville d'Afrique aujourd'hui, de plein de pays où en fait, les gens vont s'agglomérer dans des méga structures et des méga cités plutôt que d'émigrer. Mmh. Et donc en fait, il y aura peut-être même un tarissement. D'ailleurs, certains démographes le disent. Or, encore une fois, catastrophe, un tarissement, catastrophe et guerre, du flux migratoire, parce que sur le sol même où se trouvent les gens, ils trouveront de quoi vivre. Ils n'ont pas de raison de partir. Et donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de lien. Sauf qu'effectivement, chez les réacs, qui font ce lien.
Ah oui.
Ils se disent, si on n'a plus d'enfants, ils vont venir. Vous voyez, alors que, bon, pas forcément. Et puis,
oui, vu que leur pote a développé un business sur le grand remplacement,
forcément. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, le truc, machin.
Ouais, c'est ça.
Le grand remplacement, c'est aussi un jour. On fera une émission un jour sur le grand remplacement, je pense. Mais en réalité, le souci en France, c'est que tout notre système repose sur le fait de faire porter aux générations suivantes les maux de la génération précédente. Alors ça c'est historique. Hein, voilà. Comme on refuse de prendre sur les héritages, sur le capital, sur les profits, dans la poche des riches, etc., etc., eh bien une baisse de la natalité, c'est une mise en danger du système de protection sociale, comme le dit en permanence le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur actuel. Bon, alors on va les rassurer. Hein, parce que quand même, c'est un choix hein, de continuer comme ça, parce que d'autres façons de financer, on en a plein. Voilà, t'es pas obligé de garder la même et de dire c'est la meilleure et c'est tout ce qui compte, hein, machin. T'es pas obligé non plus de passer par la capitalisation. T'as plein de façons d'aller chercher de l'argent là où il est. Et c'est un choix politique. Faut arrêter de faire peur aux gens. S'il y a moins d'enfants et que la génération d'après est moins importante que les générations restantes, eh bien, il suffira d'aller financer autrement, d'aller chercher de l'argent ailleurs. Par exemple, taxer les surprofits, taxer les profits obtenus par l'automatisation. On en a déjà parlé dans l'émission. C'est la fameuse taxe robot, c'est-à-dire de se dire, si on remplace des humains par des robots, peut-être qu'il faut quand même que la valeur ajoutée soit taxée un peu au-dessus que si c'était un humain, vous voyez, par exemple.
Oui, et puis de toute façon, en fait, c'est quand même toujours très drôle parce que finalement, déjà aujourd'hui, le gâteau n'est pas partagé à parts égales.
Ah non, et nous, ils te font croire que si.
Et
hein.
Ils voudraient nous faire croire que demain, parce qu'il y aurait moins d'enfants, il serait encore moins bien partagé.
Ben non.
En fait, non, il est déjà pas bien partagé aujourd'hui. Donc
faire peur en disant il y a moins d'enfants, c'est terrible pour la Sécu, par exemple, c'est un moyen d'imposer une politique nataliste, en réalité, et d'attaquer le droit des femmes. Parce qu'il y a d'autres solutions de sortir du fameux risque et il faut se détendre, quoi. Il faut peut-être juste réfléchir. Alors, c'est un drame ou c'est pas un drame? Alors, vous l'aurez compris, pour moi, c'est pas un drame. Si on se place d'un point de vue progressiste, la baisse de la natalité n'est pas un drame et encore moins une mauvaise nouvelle dans ce cadre-là. Parce que globalement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Elle est même sans aucun doute l'occasion de se dire que l'on peut repenser la société, trouver d'autres façons de faire et d'autres façons de vivre ensemble. C'est plutôt intéressant.
Ben oui.
C'est mieux comme projet que de se dire on va revenir aux croisades, par exemple. Elle aussi, elle
est portée par un autre, enfin leur patron quoi, finalement.
Ah, et par ouais, c'est ça. Elle est aussi une occasion en or pour identifier celles et ceux hein, qui ont les tenants d'un discours rétrograde, que ce soit chez les politiques, mais aussi autour de nous, dans nos amis, nos collègues, nos familles, etc. Et donc de pouvoir argumenter avec eux ou contre eux, c'est-à-dire de dire mais pourquoi tu me dis ça ? C'est ce que des fois on entend ça, on est en repas de famille, ça. Puis tu te rends compte, on fait plus d'enfants en France. Oui, et voilà, c'est un peu. Alors, moi qui n'en ai pas en plus, je vous dis pas. donc, il ne faut pas sous-estimer à quel point les théories du type grand remplacement font du mal dans les esprits. T'en parlais, c'est vrai. C'est qu'en fait, c'est des théories qui visent à faire peur, mais qui n'ont aucune base logique, hein, je vous le rappelle. Et combien elles poussent à vouloir se dire qu'il faut toujours plus de bons petits Français. Voilà. À nous de contrer cela par un imaginaire du partage, de l'enrichissement mutuel, de l'ouverture, du métissage. De tout ce qui, en fait, depuis des milliers d'années, fait progresser l'humanité. Tout simplement. Je sais pas si on essaye de se regarder l'histoire objectivement.
Tu veux pas dire que l'humanité a évolué comme dans la famille Christine Boutin se marie entre cousins, quoi?
Non.
Ok.
Je veux pas le dire parce que c'est faux.
Oui, non,
non, mais c'est vrai, en fait, on l'oublie. Alors, évidemment, moi je sais, quand on dit ça, j'ai donc regardé quand même ces deux émissions. Hein. J'ai vu un spécialiste, un historien, Ferrand, il s'appelle. Alors, il est un peu invité partout. Alors, il faudrait quand même qu'on soit conscient que c'est un historien d'extrême droite, parce qu'on l'invite partout comme s'il était très sympathique, c'est comme Laurent Deutsch, hein, mais ce sont des historiens d'extrême droite réactionnaire. Et donc, ils ont une lecture de l'histoire très bizarre. Et donc, lui, il expliquait que les mélanges, ils étaient forcé à une époque, parce que c'était les conquêtes et tout. Oui, alors personne n'a dit le contraire. Je veux dire, on prône pas le retour des conquêtes, c'est pas ce qu'on dit quand on parle du mélange. On pense qu'en 2024, aujourd'hui, on est capable de se mélanger sans se faire la guerre. Vous voyez, juste en se parlant, en discutant, en s'accueillant, en se serrant dans les bras, en s'aimant, en faisant des enfants ensemble. Ah tiens, retour des enfants. mais voilà, mais donc tout vrai. Non, mais c'est ça. Et en fait, il essaye de vous dire, c'est la France rétrograde, repliée sur elle-même, ou le chaos des conquêtes, machin. Mais on n'en est pas là, quoi. Enfin, on va se détendre, voilà.
Non, mais c'est parce que ces gens-là sont souvent là pour nous dire, ah, vous pensez mal, etc. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont quand même eux souvent très limités dans leurs pensées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent voir le monde qu'avec des frontières, qu'avec des les autres contre nous ou nous contre les autres. Alors qu'en fait, on peut sortir de ce schéma.
Ah ben on peut, hein. Donc, alors non, nous n'allons pas vers des périodes sombres et terribles parce que les femmes font moins d'enfants en France. On va se calmer, hein. Nous y allons parce que les tenants de la réaction, de la haine, du contrôle sur le corps d'autrui, surfent sur une peur totalement irrationnelle de la disparition des humains. Et je le redis, c'est totalement irrationnel. Faut faire des maths, hein, les enfants, hein. Donc voilà. Oui, parce que quand on fait 1,69 enfants par femme en moyenne, bah, ça veut dire qu'on fait plus de 1. Donc ça veut dire qu'on ne divise pas par deux à chaque génération, comme j'ai pu l'entendre sur un plateau. Mmh. Hein, faut apprendre à faire des maths. Hein. 69, c'est plus que 1. Oui, c'est même beaucoup plus que 1. Donc voilà. Non, mais des fois, j'hallucine. Et qui nous servent en fait les mêmes idioties à longueur de journaux, de plateaux télé, etc., etc. Ils sont invités et tout, machin. Sauf qu'en fait, bah, par exemple, je vous donne dans le mille, essayez de regarder combien vous avez eu de démographes invités ces derniers temps. Bah, c'est quasiment zéro. Alors qu'on parle de démographie, et que c'est quand même une science, hein, reconnue, la démographie, eh bien, vous n'avez quasiment aucun démographe qui n'a été invité.
Ouais. Alors, à l'heure des charges, rappelons-nous que pour parler du droit des femmes, il n'y avait pas de femmes.
C'est vrai, voilà.
Donc, jusque-là, il y a une forme de cohérence dans leur incohérence. Hein. C'est pas pour les défendre, mais c'est pour montrer quand même qu'il y a une sorte de cohérence.
Mais c'est des abrutis. Non, mais même ailleurs, moi je suis même choqué, je vous le dis sincèrement, parce que j'ai un peu cherché, j'ai fouillé un petit peu, quand on fait des sujets, on fouille toujours. Il y a très très peu de démographes qui ont eu le micro. Alors que pour parler de démographie, c'est quand même bien de parler des démographes quand même.
Mais c'est toujours le problème en fait. C'est toujours le problème quand on parle, j'en sais rien, mais même de réchauffement climatique. On n'a pas forcément toujours des scientifiques sur le plateau, oui, on va avoir des économistes, on va avoir des politologues, mais pas forcément des scientifiques.
Oui, et c'est problématique. Alors, il y a quelques émissions qui en ont fait hier, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est vrai que pour le grand public, c'est-à-dire les grandes émissions les plus regardées, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de démographe. Prenons un exemple. Voilà, plutôt que d'inviter Jordan Bardella, dans Quelle époque est l'émission la plus regardée sur France 2 le samedi soir en deuxième partie de soirée, eh bien ils auraient pu inviter un démographe pour expliquer pourquoi c'était pas grave, vous voyez. Ça prenait le même temps, c'était peut-être ça faisait moins d'audience.
C'est ça, je pense qu'il a moins de followers, le démographe.
C'est ça. Alors il nous faut donc réaffirmer haut et fort que mon corps, mon choix, hein, n'est pas qu'un slogan de manif, mais c'est bien une des belles idées et des idées les plus transformatrices de ce siècle et sans doute de ce à venir et qu'il faut se tenir. Et c'est pas pour rien que les masculinistes, notamment américains, ont détourné ce slogan parce qu'ils en connaissent la puissance révolutionnaire et donc ils en ont juste peur.
C'est ça.
Voilà.
Eh bien, c'est formidable tout ça.
Bah oui, moi, c'était plutôt positif.
Non, mais oui, c'est plutôt positif, tu as complètement.
Mais faites des enfants si vous voulez en faire, n'en faites pas si vous voulez pas en faire. Voilà.
Tout à fait. Ça se réfléchit, ça se pense et ça se choisit.
Exactement.
En tout cas, on vous le souhaite que vous puissiez le choisir.
Tout à fait.
Eh bien, on passe à la ZIC si ça te va.
Eh bien, très bien.
Allez, on se donne rendez-vous dans
5 minutes 40.
C'est tout à fait ça. Allez, on y va. Love.
of noise. Join us, dear friend. Bring all your love and desire to dance. Join our branch of brinks. Don't know what to expect. Follow the groove and let yourself be carried away by the sound of our footsteps.
Causerie au 102.2 sur radiocanu.org et tu viens d'écouter un titre qui s'appelle Freaks de FLVN. Je sais pas comment ça se dit.
Je sais pas non plus.
Et c'était avec Blow S Enorme. Je crois que ça se dit, on va se dire comme ça.
Oui, Blaues Einhorn.
Ouais, je dirais plutôt comme ça. Mon allemand s'est perdu en route.
Je dirais Blaues.
Blaues, ouais. Ah voilà. Et donc c'était vachement bien.
Pardon.
J'arrive pas à le dire, donc je
peux pas. C'est pas grave.
C'était vachement bien. Et donc comme elle le disait avec sa voix, nous sommes les monstres, nous sommes les bizarres. Rejoins-nous plutôt que de rester avec ces gens étranges. Voilà.
Tout à fait dans le contexte.
Tout à fait.
Et ben formidable.
Et bien c'est à toi, Jean-Yves. Tu vas nous parler d'un tout petit pays.
Oui, tout à fait. Et en même temps, enfin, c'est dans la continuité hein, de ton sujet, Fab. Je voulais parler d'une nouvelle loi pondue par le pouvoir russe. Tout petit pays.
Mais c'est pour ça que je l'ai dit comme ça.
Bien sûr. Alors, pouvoir russe, hein, ces responsables politiques et religieux, parce que souvent ça marche de pair, qui se sont déjà imposés depuis longtemps comme défenseurs, je cite, des valeurs traditionnelles contre les Occidentaux accusés de décadence morale. C'est marrant ça, on a l'impression que ça vient pas que de Russie.
Bah non, t'as la même chez Trump, chez Orban, Milley, ouais, tous ces gens très très fréquentables d'après certains de nos ministres.
C'est tout à fait,
donc, voilà.
Qu'il faut féliciter. Alors en Russie, on connaissait déjà la haine du pouvoir envers les LGBTI. Pour quelques rappels quand même, en 2022, hein, une loi avait été adoptée pour une interdiction totale de la propagande LGBT. Cette législation hein, s'inscrivait dans une tendance qui a été mise en application depuis 2013 lorsque la Douma, le Parlement russe, a adopté une loi interdisant la propagande LGBT auprès des mineurs. Tremblez, braves gens. En 2023, ensuite, la Douma, toujours la même, a ensuite adopté une loi qui interdit toute démarche de transition juridique et médicale en Russie et qui interdit également aux personnes trans d'adopter des enfants ou d'être tuteurs-tutrices. Et cette loi, par ricochet, elle permet également à la dissolution des mariages de celles et ceux ayant modifié leur mention de leur sexe à l'état civil. Hein.
Ah, en fait, qui est une mention de leur genre, en
oui,
réalité, mais
oui,
que
oui,
la loi
oui.
appelle sexe volontairement.
C'est, voilà. Et toujours en 2023, hein, le pouvoir russe a passé le mouvement LGBT international, vous savez, ce grand lobby,
ben ouais.
Comme une organisation extrémiste. Hein. Depuis, les personnes non hétérosexuelles continuent d'être les cibles physiques de la répression russe. Et il y a encore le mois dernier, plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées dans des clubs russes lors de descentes de flics. Pour celles et ceux que ça peut intéresser, il y a quelques médias, alors c'est sur des réseaux, mais le coin LGBT, par exemple, partage pas mal d'informations internationale sur les personnes LGBT évidemment et ils ont pu partager certaines vidéos des flics qui faisaient ces descentes.
Moi oui. Juste je voulais signaler comme j'aime bien le faire des fois, si vous êtes un peu avez du mal avec l'actualité et que vous aimez plutôt passer par le cinéma, je vous conseille Les Crevettes Pailletées 2, voilà le 2 qui parle très bien de ce sujet.
Ok,
voilà,
très bien.
Et qui se passe en partie en Russie.
Ok, voilà. Très bien. Alors leur haine, hein, enfin la haine du pouvoir ne se limite évidemment pas aux LGBTI, hein. Ce serait trop simple. Les femmes ont également eu droit, les femmes entendues au-delà des lesbiennes et trans, ont également eu droit hein, à des lois contre leurs droits, leurs choix, leur corps. En février 2017, ça remonte un petit peu, mais quand même ça démontre aussi que c'est pas une entreprise qui date d'hier, avec le soutien de l'Église orthodoxe, hein, toujours, elle est toujours là.
C'est marrant. Quand même, comme les églises sont toujours là où on les attend.
C'est fou, hein. Donc en 2017, hein, la Douma a décriminalisé les violences domestiques qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Alors attention, là je vais vous citer plein de trucs autour de ça.
Ça vaut mieux.
Oui, c'est ça.
Pas d'autre mot.
Donc hein, les mecs qui battent leurs partenaires ou leurs enfants, et ou leurs enfants, souvent ça va de pair, ne font donc plus l'objet de poursuites pénales. Au lieu de cela, hein, tant que les coups ne causent pas, je cite, de dommages graves et qui ne se reproduisent pas plus d'une fois par an, les agresseurs se voient infliger une sanction administrative. Alors c'est soit une amende d'environ $500, en équivalence, hein, des travaux d'intérêt général ou jusqu'à 15 jours de détention. Alors ce changement, hein, il signifie également que les victimes sont responsables de la charge de la preuve et de l'ouverture du dossier. Autant dire, hein, dépénaliser ces violences minimise à mort donc la gravité des violences domestiques et de fait, elle décourage les victimes de signaler les abus et de fait encore, parce que je trouvais que ça va bien, ben elle encourage les agresseurs à continuer leur comportement dégueulasse en toute impunité, vu que la loi les protège. Hein,
ben, juste comme ça, pour qu'on se rende compte, enfin, je sais que, mais pas besoin forcément de ça, mais quand on sait qu'en France, qui est quand même un pays un peu plus libéral d'un point de vue des droits et compagnie, on a moins de 0,9% des viols qui arrivent à être jugé, que sur les violences conjugales, on est aussi à peu près à ces niveaux-là, c'est-à-dire très très bas, et que très souvent, quand elles sont jugées, elles sont méjugées ou sous-jugées, c'est-à-dire qu'en fait, on sous-estime ce qui s'est passé, quasi systématiquement. On imagine bien quand même qu'une femme russe qui se ferait battre par son conjoint ou sa son conjoint, pardon, parce que ça n'existe plus les conjointes en Russie, donc par son conjoint, n'irait pas. Enfin, parce que ça veut dire qu'elle va aller le dénoncer et qu'on va lui dire prouvez-le. Donc déjà un peu compliqué. Elle va montrer son bleu, lui va dire elle est tombée dans les escaliers et vu voilà, donc il y a plus rien qui est jugé. Donc ça veut donc dire clairement allez-y tabassez-les quoi.
C'est ça. Et en Russie des chiffres que j'ai pu voir, on est autour des sans trop faire d'erreur, je crois qu'on est entre 10 et 15 000 femmes assassinées par leur conjoint par an. Je continue. Hein, et l'autre info, c'est le 1er septembre dernier, hein, après avoir, quelques semaines plus tôt, affirmé qu'il était, je cite encore, « nécessaire de changer le paradigme comportemental des jeunes en termes de reproduction ». Le ministre russe de la Santé, un certain Mikhail Mourashko, a signé un arrêtant limitant la vente de médicaments abortifs et de contraception d'urgence à compter du jour même. Voilà.
Hein, il ne faut pas perdre de temps.
C'est exactement ça.
Voilà. C'est à ça qu'on reconnaît une autocratie. Hein, quand même.
Alors le truc, c'est qu'autour de l'IVG, de l'accès à l'IVG, il faut savoir que déjà en août 2023, la Mordovie, petite république de Russie située à 600 km de Moscou, était devenue la première région du pays à interdire l'incitation à l'avortement. Je vais vous citer la manière dont elle a été définie, hein, cette incitation, par les députés locaux. Et donc, c'est le fait de contraindre une femme à subir une interruption volontaire de grossesse par la persuasion, la suggestion, la corruption, la tromperie ou en imposant d'autres exigences.
Ok.
Voilà, démerdez-vous avec ça. Et la région de Kaliningrad a quant à elle annoncé la préparation d'une loi interdisant l'avortement dans les cliniques privées. Et évidemment, il n'y a pas que ça. Hein, dans d'autres territoires du pays, la même ligne est suivie, hein, comme le Tatarstan ou la région de Tcheliabinsk, où de nombreux établissements privés refusent déjà de pratiquer des IVG. Hein. Et par ailleurs, certains groupes de pression ont proposé tout simplement d'interdire les avortements aux mineurs sans le consentement de leurs parents.
C'est marrant, ces gens qui pensent que toujours était mieux avant. Parce que quand on réfléchit, quand on a un peu l'histoire, la Russie, à l'époque sous l'URSS, est un des premiers pays au monde à avoir légalisé l'avortement. Je crois que c'est dans les années 20, d'ailleurs, 20-30, hein, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement la date, mais je sais que c'était... Voilà. Donc c'est marrant, là, dans ce cas-là, c'était pas mieux avant. Vous voyez, c'est drôle comme le mieux avant, ça dépend un peu de ce qu'est l'avant.
C'est ça.
C'est étonnant.
Bref, jusque-là, le patriarcat se posait déjà plutôt bien, hein, se portait déjà plutôt bien. Mais comme tout cela ne suffisait pas, hein, au pénis sur pattes qui gouverne en Russie, directement ou indirectement, hein, au pouvoir ou dans les coulisses, comme l'église orthodoxe, hein, c'est si bien le faire, une nouvelle loi donc est arrivée. Et cette nouvelle loi vise à interdire tout simplement la promotion de la vie sans enfant. Voilà.
C'est pas mal ça. Et donc tu risques quoi?
Alors bah attends, j'y arrive.
Une insémination donc, forcée.
Donc cette loi, elle a été votée à l'unanimité à la Douma le 12, donc là il y a 5 jours, ouais. Et elle doit encore être approuvée par la chambre haute du Parlement en le 20 novembre, donc c'est-à-dire cette semaine là qui arrive. Et soyons honnêtes, il y a peu de chances qu'elle ne soit pas adopté.
Je vous rappelle que la chambre haute du Parlement russe, c'est celle qui avait déclaré Vladimir Poutine gagnant avant même que les urnes aient été ouvertes. Donc on a peu de, il y a peu de risques qui s'opposent à la
c'est
loi.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chances que cette
voilà.
loi, enfin beaucoup de malchances que cette loi soit adoptée. Hein. Alors cette loi, elle dit donc que les individus qui se livreront à la promotion d'un mode de vie sans enfant, connu aussi en anglais sous Child Free, risqueront des amendes lourdes, jusqu'à 400 000 roubles, environ 4 000 euros quand même. pour les personnes physiques et le double, donc 8 000 euros, pour les fonctionnaires. Ok. Les personnes morales pourraient être sanctionnées jusqu'à 5 millions de roubles, autant dire 47 000 euros. Et en fait, les promoteurs de la loi, ils ciblent les communautés aussi et les groupes qui pourraient être soumis à des fortes amendes pour pouvoir pour promouvoir un mode de vie child-free et qui auraient, selon le pouvoir, une attitude agressive envers ceux qui réalisent leur besoin d'être père ou mère, que ce soit sur Internet, les médias, les livres, les films ou les publicités.
En gros, après s'être attaqué aux associations LGBT, ils attaquent aux associations féministes et aux féministes russes.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est la continuité. Hein. De toute façon, c'est un vrai plan, c'est un vrai projet. Hein.
Et ça va toujours dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que voilà, des fois, c'est les féministes en premier, les LGBT après. Mais il y a toujours un moment où les Français, c'est pour ça que nos luttes sont groupées quand même.
Et oui. Alors évidemment, hein, ils mettent tout cela sur la morale, hein, les valeurs traditionnelles. Mais en vrai, on sait bien que c'est pas que cela, en Russie comme aux États-Unis et partout ailleurs où les réactionnaires, hein, on le voit en poupe et façonnent des lois, il y a là encore, hein, la politique d'un pays qui voit sa natalité s'effondrer additionnée à sa politique guerrière et sans oublier, hein, tout ce que tu as pu évoquer aussi, hein, comme le capitalisme etc, il y a besoin de consommateurs, tout ça donc comme on le dit, hein, depuis des années, l'international réactionnaire continue d'avancer tranquillement et elle avance quand même, cette internationale réactionnaire, avec le soutien quand même non négligeable d'une partie du bon peuple. Parce que le bon peuple n'existe pas, mais en tout cas, ils sont soutenus par une partie des populations. Il ne faut quand même pas se mentir non plus là-dessus. Donc voilà, ce n'est pas du tout réjouissant. Je vais tâcher de suivre un peu, voir si cette loi est adoptée.
Il y a peu de chances qu'elle le soit.
Oui, en fait, mais voilà, c'est juste peut-être essayer de trouver quelques assos russes qui pourraient réagir. Mais ça me semble, de toute façon, c'est mal barré. Et ça fait des années que c'est mal barré.
Ce qui est inquiétant, c'est surtout c'est l'étape d'après. Parce que très clairement, on le voit aujourd'hui avec... Je digresse un peu, mais on le voit avec la Chine de Xi Jinping qui, après avoir prôné l'enfant unique, parce qu'il y avait, il y avait une surpopulation d'après eux, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil, hein, c'est des estimations de gouvernants. Hein. Maintenant, veut que les Chinois, et notamment les Han, parce que c'est très dirigé sur l'ethnie Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine, le but étant d'effacer toutes les autres ethnies. Je rappelle quand même que la Chine a quand même une gouvernance militaire communisto-ethnique, hein, quand même, il ne faudrait pas l'oublier. C'est pour ça que le Tibet est en train d'être repeuplé, c'est pour ça que les Ouïghours sont massacrés ou mis dans des camps, enfin voilà.
Oui, parce qu'une des politiques qu'a l'État communiste, ne l'oublions pas, chinois, c'est effectivement d'envoyer des populations dans ces territoires qu'elle souhaite finalement reconquérir,
Elle
envoie,
Et donc, en fait, là, Xi Jinping a quand même une sortie qui était plutôt flippante. C'est qu'en fait, il veut mettre en place des cliniques de la fertilité. Alors, au départ, quand on entend ça, on se dit, parce qu'il y en a en Europe, des cliniques de fertilité, mais enfin en Europe, c'est pour la PMA. C'est-à-dire, en fait, en gros, quand vous avez des problèmes.
Oui, c'est pour aider les personnes.
Vous avez des problèmes avec vos ovules, pardon, ou votre sperme, enfin, vous allez là-bas, machin et tout. Sauf que là, en fait, dans la bouche de Xi Jinping, ça sonnait plutôt comme si t'arrives pas à le faire naturellement, on va t'aider. Et il a été interrogé sur CCTV, qui est la télé d'État chinoise, et il l'a pas nié. Il a dit que il fallait que les femmes comprennent l'effort nécessaire pour la Chine. Ouais. Donc on voit que et la crainte qu'il y a derrière ça, c'est que effectivement en Chine comme en Russie, on en arrive à l'insémination forcée, c'est-à-dire le fait de dire si vous ne faites pas un enfant, en fait, vous allez être mis dans des camps, fusillés, éliminés, détruites, reprogrammés comme ça existe dans certains pays, dans des cliniques psychiatriques ou des choses comme ça.
Ça existe aussi en Chine, pour les Ouïghours par exemple.
Donc c'est pour ça. Et en Russie, ça existe aussi d'ailleurs, parce que tout le monde, il y a maintenant des cliniques spécialisées sur les déviants, comme ils disent en Russie. Donc c'est des lieux de torture, ni plus ni moins. Et tout ça, en fait, c'est très inquiétant, parce qu'on voit que le discours qu'il y a dans les démocraties libérales, en fait, il contre pas tellement ces discours-là, parce que il est aussi nataliste. Donc en fait, ce serait un peu comme si c'était la forme extrême du natalisme d'un côté, et puis la forme un peu plus douce de l'autre. Sauf que je l'ai dit dans mon sujet. Dans l'idée, il y a quand même une atteinte toujours systématique aux droits des femmes et à leur droit de disposer de leur corps. Et ça, en fait, tant qu'on refusera de le voir et de le nommer, on passera à côté de l'essentiel, je pense.
Les
féministes le font très bien.
Là où je mettrais un truc, c'est je me demande quand même jusqu'à quel point il y a une chose qui peut être peut-être différente un peu pour la Russie de Vladimir Poutine. Encore une fois, hein, je ne suis pas en train de confondre les millions d'habitants de chaque pays et les gouvernements.
On parle toujours des gouvernements et des dirigeants.
Mais c'est que Poutine comme Xi Jinping, ils ont quand même cette ambition de retrouver leur lettre de noblesse des empires qu'ils ont été. Et on sait que ça prend différentes formes, hein, ça on est d'accord. Mais je pense que ces choses-là viennent aussi, et je me demande jusqu'à quel point eux seront capables d'aller vraiment très loin, comme tu disais, de obliger les gens potentiellement.
C'est vraiment une inquiétude. Et
je pense que là se situe peut-être un peu la différence, mais ça reste effectivement du natalisme.
Je disais simplement qu'il est quand même dingue que dans les démocraties libérales et même dans une partie de la gauche, je vais le dire avec mes mots, comme ça on va comprendre ce que je voulais dire, on ait toujours cette politique nataliste et l'idée qu'il faut faire des enfants, Mais ça va avec le productivisme, ça va avec tout ça.
En fait,
si on ne sort pas de ces spirales-là, en fait, on alimente en biais les spirales du pire. Parce qu'en fait, ils vont dire, regardez, là-bas aussi, on dit de faire des enfants, donc pourquoi vous ne les faites pas pour la belle mère patrie, machin.
C'est ça.
Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut par moment savoir trancher.
Ouais. Voilà. Et on va trancher, là.
D'accord. Tranchons, alors.
On va passer à l'Asie, qu'on se retrouve juste après.
Allez.
Revenir dans mes bras, te noyer dans un verre, répondre, je sais pas, entamer à l'envers, faire n'importe quoi, ma lâcheté légendaire, petit mensonge à la fois, travail alimentaire, j'ai dû baisser les bras, m'expliquer comment faire, tu me l'avais dit 100 fois, tu disais c'est comme ça, tu disais c'est tout droit, putain, c'est tout droit, j'ai beau avoir perdu du temps à digérer la leçon, la définition du perdant, c'est de prendre. Appuie sur le fond, je dois avoir perdu du temps à digérer la leçon. La définition du perdant, c'est de prendre appui sur le fond. Continuer à l'envers, des brûlures d'estomac, exigeant sans rien faire, j'ai perdu ton éclat. Déplacer la poussière, en avoir plein les doigts, soudoyer ma colère pour qu'elle crève une bonne fois. Illusion éphémère, j'ai dû baisser les bras, m'expliquer comment faire, tu me l'avais dit 100 fois, tu disais c'est comme ça, tu disais c'est tout droit, putain, c'est tout droit. J'ai beau avoir perdu du temps à digérer la leçon, la définition du perdant, c'est de prendre appui sur le fond. J'ai beau avoir perdu du temps à digérer la leçon, la définition du perdant, c'est de prendre appui sur le fond.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la Causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h environ. Et donc, si on vient de s'écouter le tout dernier extrait du prochain EP à sortir de Bebly. On avait eu le plaisir de l'interviewer, c'était période Covid, je ne sais plus quand c'était exactement.
Il y a bien 2 ans, je dirais, 2-3 ans.
Et donc, ce titre, c'est La définition du perdant.
C'est toujours très bien ce qu'il fait.
Oui,
écoutez Bebly.
Oui, j'aime beaucoup.
B-E-B-L-Y.
C'est tout à fait cela. On va continuer avec...
On va apporter notre soutien.
Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, dans la causerie 522 du 26 mai 2024, je vous parlais du procès Bayon que Jean-Michel Aulas, un baron lyonnais, ancien patron de l'OL, intentait à rue 89 Lyon. Et aujourd'hui, c'est rue 89 Strasbourg qui est victime d'un tel procès. En février, pour situer un petit peu hein, quand même, en février 2023, le Média publiait une enquête sur Michael Langlois, maître de conférence à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Ce dernier hein, est mis en cause pour des comportements déplacés par 10 anciens étudiants et étudiantes. Et l'une d'elles a porté plainte pour viol et une autre a porté plainte pour violence psychologique et harcèlement moral. Michael Langlois a évidemment à l'époque attaqué le Média en diffamation, hein, tactique assez habituelle quand on parle d'accusés d'agression sexuelle et ou de viol. Hein, on aura pour souvenir, je crois que à peu près tous ceux qui sont connus ont été en tout cas traînés devant la justice, qui s'appelle PPDA ou comment il s'appelle l'autre, le grand acteur français là, Depardieu.
Ouais, Depardieu.
Je crois qu'ils ont tous attaqué pour diffamation,
ouais, c'est ça,
hein, de mémoire. Hein. Et il faut savoir que en juin 2024, donc, le juge d'instruction du tribunal de Pau, où réside hein, ce prof de théologie, a prononcé un non-lieu. Donc le Média n'a rien fait de mal, il n'a fait que son métier, informer.
C'est mal d'informer.
Oui, c'est ça en fait. Et il attaque dorénavant, hein, ça, ils l'ont appris en fin octobre, il attaque désormais devant la juridiction civile, prétendant que sa photo illustrant l'article viole son droit à l'image. Oui. Il ne recule devant rien. Alors si le Média hein, se dit confiant, et il a raison quant au jugement, le souci en fait il est tout à fait ailleurs. Et on le sait, les procédures Bayon ne sont pas là pour rétablir une quelconque vérité sur le fond d'un dossier, etc. C'est pas du tout ça, non. Les procès Bayon en fait, en tout cas celle-ci, elle est là pour que le Média y perde des plumes financières. Et pas que. Hein. La volonté hein, d'un procès Bayon, c'est forcément d'intimider, de faire taire, de tuer au moins financièrement les journalistes dans le cas qui nous concerne ce soir. Mais ça fonctionne aussi hein, avec les lanceurs et les lanceuses d'alerte, les syndicalistes, les militants, etc. On le sait, dans d'autres pays, des militants, militantes ont été carrément assassinés. C'est pour ça que là, je disais financièrement au moins. Donc voilà. Donc c'est une. Alors, en fait, c'est ça. C'est ils savent déjà que le premier procès leur avait coûté 1 000 € à rue 89 Strasbourg.
C'est comment? 89 Lyon, ils vivent de leur...
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas Bolloré derrière, hein.
C'est un
média indépendant, donc c'est pas une trésorerie qui se compte en millions du tout.
Ça se compte à peine en milliers.
C'est ça, et encore, c'est ce qu'ils disaient. Donc, ils savent que là, en fait, ce procès-là, ça va être encore aussi une somme, pas des moindres, à sortir. Donc vraiment, l'idée, c'est bah, déjà là d'en parler au micro, à vous, auditeurs, auditrices aussi, bah, de porter l'information autour de vous, parce que c'est juste pas normal. Et que c'est vraiment une pratique politique hein, de faire ce genre de procès. Et si vous le pouvez, évidemment, abonnez-vous à rue 89 Strasbourg. On vous mettra le lien vers l'article, en tout cas, dans lequel il relate déjà la procédure, et pour que vous puissiez déjà vraiment connaître le truc et partager. Et ben, et vous pourrez vous abonner par la même occasion si vous le souhaitez. Donc voilà. On se quitte avec une. Toi, t'as une petite brève.
J'ai deux trucs à dire. Ouais. Le premier, c'est que on parle d'argent. Le FSER a été théoriquement sauvé dans la nouvelle version du budget. Problème, c'est que Barnier, il est tout vexé et que du coup, il a dit bah, puisque c'est ça, moi, je vais passer par le 49.3 a priori, et que s'il passe par le 49.3, il revient au budget d'origine. C'est-à-dire voilà. Qu'en fait, le FSER n'est pas sauvé. Donc, le FSER, je vous rappelle, c'est le fonds de soutien à l'émission, à l'expression radiophonique. C'est ce qui paye beaucoup de radios associatives. Et donc, du coup, ben, il va sûrement falloir qu'on se mobilise si ce budget passe en l'état, parce qu'on risque de perdre beaucoup d'argent pour vous informer, nous aussi, et pour vous parler dans les micros et vous passer de la bonne musique parce qu'on vit un petit peu beaucoup de ce fond. Voilà.
C'est ça.
En particulier Radio Canu.
Oui.
Voilà. Et donc, ce deuxième information importante, c'est que le 20, le mercredi 20 novembre, c'est le Tidor, donc c'est la journée du souvenir trans. Donc, en fait, il y a un rassemblement qui est prévu place de la Comédie, donc c'est à côté de l'Opéra, hein, pour ceux qui connaissent pas Lyon, à 19h, suivi d'un temps de soins communautaires au centre LGBTI+. Donc, des discours, un temps de prise de parole libre et un moment de commémoration sont prévus. Donc, si vous êtes une association, un collectif, voilà, vous pouvez aussi demander à les contacter en envoyant un message à contact@fierté.net et pour pouvoir prendre la parole directement. Si vous êtes une personne concernée, les prises de parole seront libres le jour du rassemblement et vous pouvez partager votre vécu et si vous en avez le courage et l'envie, parce que c'est pas toujours facile. Et après le rassemblement, il y a donc un temps communautaire au centre LGBT qui se terminera par une projection d'un film dont j'ai perdu le titre et donc je ne peux pas vous le donner. Mais en gros, je vais le retrouver le temps que je parle. Mais en tout cas, ça, c'est important. C'est, alors, le souvenir trans, c'est important parce que je vous le rappelle, enfin, on vous le rappelle à la causerie, les personnes trans aujourd'hui sont parmi les plus discriminées dans, en France comme dans bien des pays. Et en réalité, c'est une notion qui paraît être logique pour beaucoup de gens de les nier, tout simplement. Et en fait, ben, nous, on vous le dit, tant qu'il y aura des haineux qui seront à la négation des personnes trans, vous nous trouverez sur votre route. Et on vous expliquera que non seulement elles existent, mais qu'en plus, il faut que vous fermiez votre gueule. Pour être très clair. Voilà. Et donc, le film, sinon, c'est la projection donc d'un documentaire qui s'appelle « L'ordre des mots ». Voilà, dans le cadre du Tidor, c'est au centre LGBTI+ de Lyon,
rue des Capucins.
Rue des Capucins, c'est ça. Et donc voilà, donc bah, si vous êtes là, vous pouvez venir.
Eh ben très bien.
Si vous n'êtes pas trans, hein, d'ailleurs, je vous le rappelle.
Oui,
c'est une journée de soutien.
Oui, c'est donc, ça.
Même quand on fait des prides, c'est pareil. Si vous n'êtes pas LGBT, vous pouvez venir. Oui. On mord pas.
Non,
promis.
Non.
Sauf si on vous le demande. Ça,
c'est ça. Et ben avant de se quitter, rappel rapide bah, des moyens de nous contacter, de nous écouter. Donc si vous voulez nous contacter, nous écrire, on le rappelle toutes les semaines, mais on espère que vous n'hésiterez pas si vous entendez ce message. Si vous êtes une asso, une artiste, quel que soit le domaine, n'hésitez pas. Donc c'est lacauseriecanu@gmail.com, lacauseriecanu@gmail.com. Vous pourrez réentendre cette émission sur le blog de l'émission, comme les 538 précédentes. C'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Vous tapez dans votre petit moteur de recherche blog La Causerie Radio Canu, vous devriez tomber sur nous.
Tout à fait.
Et c'est pareil sur les différentes plateformes d'écoute musicale, etc. Vous pouvez retrouver les podcasts toujours La Causerie Radio Canu et vous tomberez sur nous, tout comme sur un réseau socio-commercial
de vieux. Qui s'appelle Facebook.
C'est ça. Donc les jeunes, bah, je sais pas.
Bon, on essaie de vous...
Essayez de nous rajeunir un peu. Allez. Et ouais. Et ben voilà, on va donc se quitter. On vous donne rendez-vous dimanche prochain sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, il y a évidemment plein d'autres émissions.
Ouais.
Et si vous avez l'occasion de passer devant Radio Canu, venez voir cette nouvelle devanture qu'il y a. Elle est absolument magnifique. J'ai pas le nom de l'artiste. Je suis absolument désolé. Là, je l'ai pas dans la tête.
Mais elle est très belle.
Mais cette devanture est absolument magnifique, florale et belle. Donc voilà. Et donc, on va se quitter en musique.
Pardon. Et on peut faire un coucou à la nouvelle émission qui est arrivée le dimanche, je crois, de 14 à 15h. Oui. Qui s'appelle J'aime pas lire.
C'est tout à fait ça.
Voilà. Et où on vous donne l'envie de lire.
C'est ça.
Et de découvrir
enfin,
ce que
ou
c'est.
Ou il et elle. Ou
et elle, elle. Enfin,
c'est,
oui,
pas, hein. C'est pas nous, toi.
Ouais, non, pas nous. Hein. Mais les, ceux et celles qui font l'émission voilà. Vous donneront envie de lire et de découvrir la lecture.
Eh bien, très voilà. Bien. On se quitte en zik.
Oui, alors on se quitte avec The Acid featuring Raix. Voilà. Et le titre, c'est Breed.
Et voilà. Très bien.
Et ça va, ça devrait vous plaire pour finir en douceur, mais pas que.
Ok.
Voilà.
Et bien rendez-vous dimanche prochain sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Salut.